feu de tout bois numéro 3 cet après-midi.
Bonsoir.
Bonsoir. On est parmi les belugas.
Bah oui, on était avec un petit rassemblement de dépolars pour commencer cette émission. Et là, ce sont les belugas qui cliquettent.
D'inviter des artistes à chaque émission.
Et puis alors eux, sans patrie ni frontière, hein. Un peu
sans copyright.
Enregistré par le fond des mammifères marins de San Francisco. Et publié et édité chez Citel en 92, une grande maison d'édition de bruit des animaux. On va commencer par un petit agenda extra-local et puis on continuera par plus d'une heure d'émission sur
des films, projet de construction d'un stade de foot. Donc on a rencontré les personnes qui s'opposent à cette construction et qui la occupent un terrain qui est une route qui mène à
dans la banlieue de Lyon.
Dans la banlieue de Lyon.
Et puis comme ça durera une heure, on aura encore quelques minutes à la fin de quelques minutes avant 9h pour se rappeler l'agenda, se dire au revoir et puis réécouter quelques sons venus des profondeurs. Le week-end qui vient à Marseille. On a déjà beaucoup parlé ici, mais c'est juste pour rappeler que c'est le festival de Paroles de Galère, fait en collaboration avec Radio Galère, samedi 1er septembre et dimanche 2 septembre à la Friche de la Belle de Metz, voilà, si vous avez l'occasion d'aller sur Marseille. Et rien à rajouter hein, sur Paroles de Galère, si vous avez la chance, vous pouvez rester encore une semaine à Marseille. Et le samedi 8 septembre à 18h, rassemblement devant le centre de rétention du Canet, boulevard des Peintures, métro Bougainville. À Marseille, donc dans cette prison pour les sans-papiers qui ne dit pas son nom, combien de bastonnages, de mises à l'isolement, de camisoles chimiques, de pressions psychologiques, une retenue à frôler la mort à cause de violence et d'absence de soins. Un autre retenu s'est pendu. Il est toujours à l'hôpital. Dans le centre, les actes de résistance individuelle et collectifs sont fréquents. Grève de la faim, départ de feu, refus d'embarquer et de coopérer. Après plusieurs actions à l'extérieur, rassemblement, occupation d'un bateau pour empêcher une expulsion, parloir sauvage, exprimons une nouvelle fois notre solidarité afin que les retenus nous entendent. Brisons l'isolement, solidarité avec les sans-papiers. Donc rassemblement à Marseille, samedi 8 septembre à 18h, donc samedi en 8. Devant le centre de rétention du Canet, boulevard des Peintures, métro Bougainville, solidarité internationale.
Rien à rajouter. On va s'écouter cette interview. Du coup, cette interview, elle a été faite dans la semaine dernière, plutôt même.
C'est tout chaud alors. Hein.
C'est tout chaud, ouais. Montée, donc, du coup, actualité super récente. Voilà.
Montée et dans la foulée.
Et deux personnes qui occupent donc du coup, qui vont vous expliquer un peu tout ce qui se passe là-bas mieux que moi finalement. Donc je vais leur laisser la parole.
C'est parti pour une heure.
Bah du coup peut-être tu peux nous dire où on est là déjà.
Alors là on est à Décines. On est à Décines sur la communauté de communes du Grand Lyon, donc c'est-à-dire à 10 km à l'est de Lyon. Et on est à la frontière entre... On a la frontière entre la ville, entre l'urbanisme et le monde rural, quoi. Voilà.
Et du coup, plus précisément, on est sur un lieu occupé.
Oui, on est sur un lieu qui est occupé depuis début avril.
Comment ça s'est fait, en fait, l'idée de... Enfin, déjà, pourquoi venir occuper ici, à Décines? Enfin, l'idée, c'est...
Alors pourquoi venir occuper ici à Décines? On est un certain nombre de personnes à s'être rencontrées, soit à s'être connues d'avant du milieu un peu squat et du milieu libertaire sur Lyon. Certains qui viennent du milieu squat, qui avaient l'habitude d'ouvrir par ici. Et on a été une petite équipe à se rencontrer et à faire émulsion l'année dernière, à l'époque des mouvements antilopsie. Voilà, où on s'était retrouvé quand même beaucoup à Toulouse, où il y avait eu le premier camp, où ça avait quand même été un mouvement un peu national autour de ça, quoi. Il y avait eu pas mal de soutien de beaucoup de villes en France, quoi, qui venaient soutenir ceux de Toulouse. Et du coup, ce Lyon était quand même venu en force, quoi. Il y avait eu 15-20 personnes qui étaient venues soutenir Toulouse. On est resté un moment là-bas et c'était très formateur pour nous tous, cette expérience de Toulouse. Et du coup, quand le campement de Toulouse, après 2 mois et demi d'occupation de la ville à Toulouse, a décidé de se nomadiser, nous on a décidé de revenir sur Lyon et de monter un campement antilopsie là-bas, donc ici, quoi.
Et comment vous avez su qui allait ce projet de stade parce que du coup on est sur les terres d'un futur stade, ou en tout cas au moins une route qui va mener à ce stade.
Ouais, on est à proximité d'un projet de stade de football qui est prévu pour l'Euro 2016, enfin qui doit être opérationnel pour l'Euro 2016 et qui a un chantier déclaré d'intérêt général. Voilà.
En fait, à partir de votre lutte contre l'Opsi 2, c'est là que vous vous êtes connecté et que vous êtes dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour s'opposer au projet de stade.
Du coup, on s'est rencontrés comme ça et on a découvert un peu. Bah après, on a tous nos parcours. On est tous habitués un peu du mode de vie, des squats, des camions, de vivre dans la nature, de vivre dans des cabanes et tout ça. On a tous un peu ces expériences-là. Et qu'on a découvert ce mode du campement, c'est-à-dire de vivre avec des valeurs qui sont proches de la nature, mais de se poser proche de la ville, quoi, au contact des gens qui, eux, sont pas du tout dans cet univers-là, quoi. Et ben, c'est quelque chose qui nous a tous, qui a été très formateur et qui nous a un peu transformé, quoi. Cette expérience, on l'a beaucoup appréciée. On a fait ce camp de Toulouse, on a fait ce camp de Lyon. Après, on a bougé, je pense, pas mal l'année dernière sur d'autres camps, parce qu'on a eu beaucoup en France de foyers comme ça qui ont démarré. Et l'hiver dernier, on était quelques-uns comme ça à retourner voir nos copains de l'année dernière, à essayer de recommencer cette expérience des camps, à voir. Du coup, là, l'opsie avait été déjouée entre-temps. Enfin, quoique, les lois, ils trouvent toujours moyen de les faire passer d'une manière ou d'une autre. Mais on avait envie de recommencer cette expérience. Et on a un ami sur Lyon, un ancien militant qui est bien connu du pays, qui s'appelle Michel, qui lui avait entendu parler des gens de Décines et de ce projet de stade. Et ici, à Décines, il y a une association Carton Rouge qui est déjà constituée depuis 4 ans, qui compte plus de 300 membres et qui sont des habitants de Décines qui sont montés en association pour protester contre le stade et notamment contre les expropriations. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme le projet de stade a réussi à obtenir une déclaration d'intérêt général, donc comme quoi serait pour l'intérêt général de la France et des Français, alors qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, les crèches et compagnie, eh bien, cette déclaration d'intérêt général, ce DIG, leur permet d'exproprier les gens à 1 euro du mètre carré, que ce soit de la terre agricole ou du foncier, quoi. Voilà. Donc Michel nous a...
Des terrains, excuse-moi. Des terrains sur lesquels il y a déjà des maisons, quoi.
Des terrains où il y a déjà des maisons, c'est-à-dire qu'ils exproprient de la terre agricole, c'est-à-dire des paysans, ils exproprient la ruralité en la repoussant encore plus loin... mais ils exproprient aussi des gens dont c'est la maison, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens ici qui ont payé 20 ans de crédit, voilà, pour acheter des terres qui sont en moyenne à 130 euros du mètre carré et qui se retrouvent expulsés à 1 euro du mètre carré. Voilà. Donc, Carton Rouge, c'est constitué comme ça, et c'est un vieil ami militant, Michel, qui est bien connu sur Lyon, qui nous a parlé de... Voilà, quoi, de la détresse de ces gens sur Décines, du fait que personne n'en parlait, que ça allait passer vraiment sans que personne s'y intéresse vraiment. Et du coup, ça a fait tilt, quoi. Nous, dans notre envie de recommencer cette expérience des camps et dans cette histoire de Décines, on s'est dit, pourquoi on n'irait pas faire un camp à Décines, mettre les pieds dans le plat sur les lieux du projet et voir ce qu'on peut faire. Et voir ce qu'on peut faire pour essayer d'empêcher ou tout du moins de ralentir ce projet, ou en tout cas d'en faire parler, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. en tant que citoyen par rapport à ça.
Et comment, du coup, vous avez rencontré l'association Carton Rouge, j'imagine, quoi ?
Ouais, on est en contact régulier avec Carton Rouge. Voilà, après, on n'a pas des modes de fonctionnement forcément très similaires, parce que nous, on vient d'un milieu... On vient peut-être plus d'une culture militante, d'une culture squad, d'une culture cabane et tout, parce que c'est aussi un mélange de gens qui ont plutôt des affinités avec la ville et des gens qui ont plutôt des affinités avec la nature. Il y a des nomades comme des sédentaires, enfin, c'est un brassage culturel, quoi. Et c'est vrai, Carton Rouge, c'est vraiment une association de défense d'habitants, quoi, de décines. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes motivations qui nous ont amenés à nous rencontrer, mais on arrive à fonctionner ensemble, voilà, tant bien que mal.
Et de toute façon, l'objectif est le même, quoi. C'est l'objectif aucun travaux sur les... ici.
L'objectif est le même. Après, c'est vrai que, enfin, je peux parler que pour ma part, mais moi je suis là pour la défense de la nature plutôt que pour défendre le droit de propriété, quoi, mais c'est vrai que, bon, c'est ce qui leur arrive est révoltant aussi, quoi, quand on fait un crédit sur 20 ans pour se payer sa maison et qu'on se retrouve exproprié à ce prix-là, qu'on te dit tu prends 30 000 euros et tu te barres, comment tu fais, quoi, quand t'as 50 ans, que... comment tu fais, quoi. Je comprends la détresse, je comprends vraiment la détresse de ces gens-là.
Voilà. D'ailleurs, du coup, peut-être... Enfin, tu peux un peu nous expliquer comment c'est joué, comment Jean-Michel Aulas, du coup Jean-Michel Aulas c'est le président de l'OL, toi, a réussi à se faire un tout nouveau stade aux frais du public, quoi.
Eh bien, par un arrangement avec son ami le maire de Lyon, donc Monsieur Collomb.
Du coup, en fait, pour essayer d'être assez concis, donc le truc c'est qu'au départ le Grand Lyon, donc au départ on a le poumon vert de Lyon qui est le Vévert, qui représente 150 hectares de terre. Donc sur ce Vévert, le Grand Lyon lui a 50 hectares de réserve foncière. Donc premièrement déjà ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 30 hectares de cette réserve foncière, qu'ils ont revendu à Aulas à 30 euros du mètre carré.
Qui était donc propriété de l'État, ça. Enfin,
Grand Lyon. Grand Lyon, avec des droits de préemption, etc. Des terres classées N1, où en fait, qui sont inconstructibles au départ.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est le premier truc. Après, en même temps, le Grand Lyon a racheté des terres, pareil, une vingtaine d'hectares, aux paysans, aux propriétaires ici. Ils les ont rachetés entre 7 et 14 euros du mètre carré. Ils les ont revendus à Aulas 30 euros du mètre carré. Voilà. Pour ce faire, ils ont monté une agence qui s'appelle la filière du Montou, qui a été montée avec 22 millions d'euros. Et donc il se trouve que par un tour de passe-passe ministériel à l'époque du gouvernement Sarkozy, ils ont non seulement, comme disait Clem, réussi à faire passer ce projet d'intérêt général, et en même temps ils ont réussi à faire passer les terres constructibles. Ça veut dire que ces terres donc, ont été revendues soit 30 euros ou 40 euros à l'OL, sont passées à 300 euros du mètre carré minimum. Puisqu'il y a un appel d'offres, évidemment ils font un stade, mais en même temps il y a des commerces, etc. Donc ils font des appels avec des personnes à qui ils vont revendre ces terres constructibles, évidemment. Ça peut être 300 euros, mais ça peut monter beaucoup plus pour des hôtels, etc. Donc en fait, la filière du Montou, qui est montée avec 22 millions d'euros, aujourd'hui elle en vaut 200 millions.
C'était une filière publique alors,
enfin, privée.
Parce
que ça appartient à l'OL Group.
Ah, c'est
purement privé, ouais.
D'accord.
Donc ce qui permet de financer le stade pour 400 millions d'euros. Et bon, il joue sur les mots, il dit que ça coûte pas d'argent public. C'est vrai que le stade lui-même ne coûte pas d'argent public. Ce qui coûte de l'argent, c'est les infrastructures qui vont relier le stade, qui elles-mêmes sont chiffrées à 200 millions. Et souvent, il y a un taux de chute de plus d'un tiers, donc ça devrait monter à 350. Et donc, alors, cet exemple donc, des terres rachetées 7-14 euros aux gens, aux paysans, etc., sans leur dire qu'il y a un projet immobilier et que les terres vont devenir constructibles. Donc aussi, cette réserve foncière revendue 40 qui devient 300, et également, rappelons-le aussi, tout ce qui va déborder et qui n'appartient pas au Grand Lyon, etc., va être exproprié. Et là, sur le coup, à 1 euro du mètre carré.
Voilà. Parce que c'est un projet d'utilité publique.
Exactement.
Et ça, c'est ce qui va se concerner toutes les infrastructures. Parce qu'il y a, du coup, il y a une autoroute, enfin, du coup, il y a le périph' qui passe pas loin.
Voilà.
Il y a une sortie qui va venir ici.
Voilà.
Il y a un tramway, c'est ça aussi.
Voilà, l'extension du tramway. Ouais, parce qu'ils rencontrent un problème, c'est que vu qu'il va y avoir 45 000 spectateurs en voiture, ils prévoient un flot de 15 000 voitures. Et donc, ils avaient un problème de parking, donc ils ont eu la super idée, vu qu'il y a 4 000 places à Eurexpo, ils construisent une route donc qui va relier Eurexpo au stade directement.
D'accord. Voilà. Eurexpo, c'est pas loin d'ici
ou... Eurexpo, c'est à quelques kilomètres en amont derrière.
Et l'argent qui va être consacré, enfin l'argent des caisses de l'État, ça représente combien en fait ?
200 millions d'euros.
D'accord. Et là les travaux n'ont pas commencé du tout en fait. Il n'y a rien qui a été fait jusqu'à présent.
Bon, ce qu'il faut savoir sur ce projet, c'est que s'il n'y a pas de stade, en fait, il faut voir que c'est une friche industrielle qui va de toute façon être destinée à un projet immobilier, quel qu'il soit, que ce soit un centre commercial, quelque chose. Donc du coup, ils anticipent et ils commencent à construire les bassins de rétention d'eau. Parce que vu qu'ils bétonnent et qu'il y a beaucoup d'écoulements dans la région, forcément l'eau va arriver quelque part. Donc ils ont commencé à construire ces bassins en intitulant « Chantier du stade », ce qui est totalement faux puisqu'ils ne sont pas encore propriétaires puisqu'il y a un gel des expropriations jusqu'au 19 décembre. Donc en aucun cas les travaux du stade ne peuvent commencer avant. Et ça ne les empêche pas de titrer chantier du stade pour que justement, dans l'esprit des riverains, des personnes, etc., le chantier ait déjà commencé en fait.
Et pour quelle raison ça, il faut qu'ils attendent le 19 décembre, ça t'a dit ?
Oui, parce qu'il y a un gel des expropriations jusqu'au 19, donc il y a un juge des expropriations qui est en train de statuer pour voir justement si l'acte d'expropriation va vraiment avoir lieu puisqu'il n'est pas encore signé. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Là, c'est les habitations en fait qui sont tout autour là de cette butte qui sont concernées par ces expropriations.
Voilà, en clair, là la butte, on a trois prés. Donc le pré du bas, la route va passer en plein milieu.
Ouais.
Et donc elle va longer après quand on est dans le potager, on voit la route du bas, elle va longer toute cette route. Et après, je vous montrerai la carte tout à l'heure. On a la carte des expropriations en fait toutes les parcelles concernées qui bordent la route, quoi. Et il y a au moins entre 150 et 200 parcelles qui sont concernées.
Et la plupart des riverains sont opposés à ces expropriations. Il y en a qui ont accepté des indemnisations.
Bien sûr, certains ont accepté, certains ils voient pas de mal, certains voient ça comme... comme on le présente officiellement, hein, comme le présente messieurs Colomb et Wallace, c'est-à-dire comme une chance pour des signes de pouvoir se développer et tout, quoi, toujours dans cette logique de développement économique. Eux, ce qu'ils prétendent, c'est que ça va créer de l'emploi et compagnie. Bon, après, il faut voir quel genre d'emploi, quoi. C'est sûr que si c'est bosser à McDo ou être gardien de parking, enfin bon.
Oui, ils disent aussi que les loyers vont baisser, que les impôts vont baisser, que ça va rapporter de l'argent à la commune. Et je pense qu'ils n'ont pas vraiment conscience que, oui, ça rapportera peut-être de l'argent à la commune, mais ça ne sera pas forcément redistribué. Ouais. Mmh. Parce que ce qu'il faut savoir, par exemple, sur la butte où on est, là, la mairie a racheté des terres cette année. On ne sait pas à quel prix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les parcelles sur lesquelles on est, il y a un an et demi, appartenaient à des privés. Aujourd'hui, elles appartiennent à la mairie. Donc, en fait, la question se pose... est-ce qu'ils n'ont pas, eux, un projet immobilier ? Puisque s'il y a un stade, s'il y a une route, à terme, pourquoi pas, sur cette butte, mettre des maisons ou des centres de détente, etc. Et pour rebondir, justement, là, on est plusieurs à se dire, même si on n'arrivait pas à gagner sur cette route ou sur ce stade, ou s'ils faisaient quand même quelque chose, pourquoi pas, à terme, préserver cette butte ? Parce que dans l'esprit des anciens ici, il n'y avait que des potagers avant, c'est une terre super fertile, il y a des espèces sauvages qui vivent ici. Mmh. C'est vraiment un cœur de nature dans Lyon et pourquoi pas à terme la préserver.
Et juste au niveau des recours juridiques, c'est qui mène ces actions-là en fait, qui tente d'entraver le projet ou en tout cas de le retarder ?
Alors précisément, il y a 30 associations qui se battent. chapeauté sous les gones pour Gerland.
Parce que le stade est à Gerland actuellement, c'est ça ?
Voilà. Et une petite parenthèse, il faut savoir que le stade de Gerland peut être agrandi. Donc en fait, ce qui s'est passé au début du projet, ils ont fait une grande campagne de publicité en disant le stade de Décines est nécessaire à Lyon puisque Gerland est obsolète, ne pourra pas accueillir... l'Euro 2016 et en plus Olas veut voir son équipe être championne d'Europe dans un nouveau stade. Donc Gerland a été agrandi en 98 pour 45 millions d'euros, ils l'ont monté de 8000 places Et en fait, c'est Gerland est tout à fait agrandissable. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quatre portes historiques qui, elles, sont intouchables. Il faut savoir qu'en plus, il y a le cabinet d'architectes qui s'occupait de cette affaire en 98 qui a fait deux études. Et il est ressorti que pour 200 millions d'euros, ils peuvent le monter à 58 000 places, tout en gardant le championnat, puisqu'ils peuvent le faire virage par virage. Voilà. Donc ça, c'est un dossier qui a été complètement caché aux Lyonnais, en fait, et qui serait... qui à terme est aussi dans le justement dans les recours, etc. Donc comme je disais, les Gones pour Gerland, 30 associations, 37 recours en justice, et donc c'est tout cela est dirigé de main de maître par Étienne Tête, qui est lui-même l'avocat des faucheurs volontaires, voilà, et qui s'occupe de tout ce dossier en justice, quoi. Donc avec ces 30 assos, donc qui se battent autant pour la préservation des espèces naturelles, pour la préservation des terres maraîchères, pour la préservation des nappes phréatiques, parce qu'on est dans l'Est lyonnais, il y a 5 nappes phréatiques et il y en a une ici, précisément à Décines. Pour le respect des lois d'urbanisme, parce qu'ils ont complètement révisé le PLU, etc., pour pouvoir contourner et tout, puisqu'on avait dit ici, il n'y a pas moyen de faire l'infrastructure, etc. également pour donc que la vérité soit dite sur l'agrandissement de Gerland. Et puis qui se battent aussi contre les expropriations. Quoi.
Et là, on est quand même déjà en mi-2012, quoi. Ça laisse assez peu de temps pour les travaux. Il y a vraiment ces recours-là, on peut peut-être permettre que les travaux se fassent pas. Ou il y a vraiment, comment vous le sentez au niveau de la faisabilité de ce projet, quoi?
Bah, personnellement, j'en ai aucune avis, aucune supposition dedans. Je veux dire, bon, ils réussiront peut-être leur coup, peut-être pas. Là, pour moi, c'est vraiment un mystère total.
Okay.
C'est dur de savoir à l'avance. Il y a plusieurs recours en justice qui sont en cours, en ce moment, donc menés par Étienne Tête. Il y en a eu un le mois passé qui remettait en cause la déclaration d'intérêt général, et voilà, qui a été étudié par un commissaire pendant un mois, et voilà, qui nous avait laissé bon espoir et qui finalement a été annulé. Donc pour le moment, il continue. Il y a encore plusieurs recours qui sont en cours, ce qui fait aussi qu'eux, ils peuvent pas non plus commencer les travaux pour le moment. Donc effectivement, l'échéance pour l'Euro 2016 est de plus en plus courte pour eux aussi. Les contrats aussi, parce qu'il faut savoir qu'ici, comme dans beaucoup d'endroits, c'est la multinationale Vinci qui devrait avoir le projet, mais ils n'ont pas encore signé avec Vinci. C'est-à-dire que si effectivement il y a trop de problèmes de justice, ça va engager trop d'argent par rapport à la rentabilité, ça va être de plus en plus compliqué pour eux. Donc bon, on a bon espoir, peut-être pas d'empêcher le projet, mais au moins de leur mettre des bâtons dans les roues, quoi. Ouais, parce que c'est sûr que voilà, empêcher ce développement, c'est pas facile. On est aussi ici, on est une poignée. On n'est pas non plus un nombre énorme, quoi. Enfin, on peut pas se mettre dans un rapport de force. Enfin, et puis bon, on serait pas dans notre intérêt de toute façon. Mais...
Puis c'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, quand on réfléchit après coup, on voit que c'est quand même des projets de grande envergure qui se tapent sur 10-20 ans. Parce qu'ils achètent des terres, ils font des droits de préemption, alors ils font venir la population en disant « Regardez, vous êtes à la campagne, alors justement c'est un crédit sur 20 ans, les terres valent tant, et puis après on vient de dire il y a un stade de 60 mètres de haut, donc je veux dire, ils refont de l'argent, beaucoup de plus-value, souvent plusieurs fois sur les mêmes terrains, etc. Et je veux dire, normalement, si on regarde les choses simplement, normalement, ce stade déjà est infaisable, puisqu'au départ, un complexe sportif, le faire passer d'intérêt général, c'était pas possible. Donc, il a déjà fallu faire un tour de passe-passe au ministère. Après, normalement, le moindre crapaud, la moindre espèce sauvage, tu ne peux pas la toucher, normalement, dans la charte de l'environnement, etc. Quand on prend la charte de l'environnement aujourd'hui, qu'on lit chaque article, tu mets son contraire en face, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Donc, les exemples sont multiples. Et notamment, c'est un peu la dérision du truc, c'est ce qu'expliquait Étienne Tête, c'est que là, son argument principal tient sur le fait que quand ils ont déposé la demande de permis de construire il y a 6 ans, à l'époque, quand tu faisais une demande d'intérêt général sur une construction, tu étais obligé de faire de la publicité à la population en disant « nous faisons une demande d'intérêt général sur tel projet ». Et à l'époque, ils ne l'ont pas fait. Et quelques jours après, il y a un décret qui est passé, et qui a annulé cette obligation de publicité.
Et lui, Étienne Tête, joue là-dessus. Il dit, voilà comment ça se fait que 3 jours avant, normalement, vous étiez obligé de faire cette pub et que vous ne l'avez pas fait. Et où je parlais de dérision, c'est que lui, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'un juge peut reconnaître qu'il y a illégalité, mais il peut reconnaître aussi que, vu que c'est d'intérêt général ou d'utilité publique, eh bien, la justice passe outre la menace, en définitive, et va quand même accorder le permis. Voilà.
L'intérêt général, il permet de s'asseoir sur tout un tas de normes environnementales et...
C'est ça.
Ouais.
Et là, l'intérêt général, c'est la Coupe d'Europe, en fait, toi.
C'est ça. C'est l'Euro 2016.
Oui, puis c'est les emplois, c'est... voilà, c'est, ouais, c'est tout ça, c'est l'emploi, c'est aussi. Ça crée des emplois, et puis oui, l'intérêt général, parce que un club de foot qui devient champion d'Europe, bah, c'est l'économie qui s'emballe, etc. Alors et
les gens sont heureux.
Puis les gens sont heureux, bien sûr. Tout à fait.
Un rayon de soleil.
Bah ouais, ouais. Parmi ce tumulte de voitures incessants et de gaz carbonique, oui, ça. Enfin, un rayon de soleil, c'est sûr.
Et là, la situation au camp, au niveau juridique, elle est. C'est laquelle et laquelle, quoi? Ça se passe comment? Parce que du coup, c'est illégal, évidemment, cette occupation.
Du coup, le camp, on occupe plusieurs parcelles. Il y a des parcelles qui appartiennent. Alors, c'est que des parcelles qui étaient inexploitées, donc qui n'étaient pas en activité quand nous, on est venus s'y mettre. Mais. Elles appartiennent pas toutes au même propriétaire. La parcelle principale sur laquelle on se trouve appartient à la mairie, qui a donc porté plainte contre nous pour occupation illégale. Après, il y a quelques autres parcelles voilà, qui appartiennent à des propriétaires privés et avec lesquels on n'a pas de problème, mais pas vraiment de dialogue non plus pour le moment. Mais bon, comme c'était des friches, voilà, je sais pas.
En tout cas, qu'on peut porter plainte contre vous.
Non, il y a que la mairie qui a porté plainte contre nous. Voilà, donc il y a une plainte qui est en cours et voilà, on a la visite régulière de la police qui vient constater un peu l'avancée du campement, le nombre de gens. Et voilà, pour le moment ça en va pas plus loin, il n'y a pas de tentative d'expulsion.
Il n'y a pas de jugement de prévu, pas de procès, la plainte n'a pas été instruite pour l'instant.
Elle n'est pas instruite du tout pour le moment.
Ouais, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils portaient plainte pour se désolidariser de n'importe quel problème qu'on puisse avoir. Si on se coupe ou on se brûle, voilà, ils sont pas responsables.
Donc ils sont pas, pour l'instant, ils sont pas dans l'intention de mener les choses devant la justice, quoi.
Ils ne semblent pas.
D'accord.
Bon, en revanche, il faut savoir qu'il y a une loi qui dit que même si un propriétaire t'accueille chez lui et que tu campes sur son terrain plus de 3 mois, c'est camping illégal.
Oui.
Donc il y a cette loi quand même.
Qui permet aussi aux autorités d'intervenir sans que le propriétaire ait.
Mais on nage un peu en eau trouble, quoi. Mais
ouais.
Même s'ils ne demandent pas l'expulsion, et normalement, d'après la loi, au bout de 3 mois, ils sont tenus de demander l'expulsion.
Mmh. Et du coup, c'était quoi l'idée de faire un camp ici? C'est un peu tout ce que tu as dit tout à l'heure, Clément, par rapport aux luttes antilopsie et d'avoir un lieu fixe quelque part, un campement, s'organiser et puis se rencontrer sur un truc un peu plus stable. Mais du coup, vous voulez y mener quoi ici en fait, quoi?
Ben, ici, du coup, effectivement, cette action de mettre un camp ici, elle se mène sur plusieurs fronts. Il y a et sous plusieurs aspects. Il y a l'aspect militant et l'aspect lié au stade, où on essaye de faire des actions. D'informations auprès des gens, éventuellement des actions pour ralentir les travaux. Bon, ils n'ont pas encore commencé, donc on n'est pas passé dans cette phase-là, mais on est aussi là pour ça. Et puis il y a tout l'aspect, comme effectivement, donc ça fait déjà bientôt 5 mois que le camp est ouvert. Il y a simplement l'aspect de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de vivre proche de la nature, de s'initier les uns les autres à la permaculture. Donc essayer de s'autoproduire, c'est un chemin aussi de retour à la nature, d'autogestion, de vie collective. Et je pense pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose de très expérimental. Voilà, c'est une zone d'expérience aussi de vie collective. Voilà.
Et c'est ouvert à...
C'est ouvert à tous et tout le monde est bienvenu.
devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Il y a eu un festival fin juin, c'est ça ?
Fin juin, début juillet, le week-end du 30 juin, 1er juillet, on a fait un festival, le festival de la Butte. Voilà, on a dû avoir, on a eu un énorme orage dans la nuit du samedi au dimanche, et pendant la journée du dimanche, qui a fait qu'on a dû annuler un peu toutes les activités du dimanche. On a quand même maintenu du clown, du théâtre de l'opprimé et tout, et merci beaucoup à ceux qui sont restés malgré les trompes d'eau, la boue et compagnie, qu'on n'avait pas forcément prévu. Voilà, le samedi soir était peut-être plutôt festif avec des concerts et tout ça. Et voilà, on a eu une fréquentation d'une centaine de personnes et on était déjà bien contents. On a réussi à pas dépenser trop d'argent, à pas se mettre trop dans le rouge de ce côté-là. Bon, on n'en a pas gagné non plus, hein. C'est vrai que c'est assez trop avec ce genre de choses qu'on fait des sous, et puis c'est pas notre volonté non plus, on n'est pas vraiment là pour faire de l'argent. Si déjà on arrive à pas s'endetter, c'est énorme. Et voilà. Mais du coup, l'expérience de ce festival, on l'a monté quand même très rapidement. On est beaucoup à avoir des expériences, avoir été bénévole et tout ça, mais c'est vrai que monter un festival, et puis en plus en si peu de temps et tout, c'est pas facile, ça a été beaucoup d'énergie donner là-dedans, donc pour le moment on prévoit pas de relancer des choses comme ça, ouais. Enfin, en tout cas pas avant l'année prochaine si on est encore là. Voilà.
Pour rebondir justement, peut-être en préparation, qui sera pas forcément un festival mais plus un rassemblement basé donc sur la permaculture et l'autoconstruction, puisqu'en fait on a eu la visite des AMAP Rhône-Alpes. Et donc, ils proposaient de venir faire leur assemblée générale fin octobre ici.
Fin septembre, je crois que c'est vers le 22.
Alors, en fait, le 22, au départ, on s'était dit qu'on refaisait un festoche le 22. Et en fait, ça tombait sur les gaz de schiste. Et donc, l'idée, après, c'était justement l'AG fin octobre des AMAP. Le 22, c'est gaz de schiste, en fait. Et donc, ça représenterait quand même 400 personnes. Donc ça sera peut-être l'occasion justement de faire un gros rassemblement autour de la permaculture et de l'autoconstruction sans forcément avoir le truc festival, etc. Tu vois, mais pourquoi pas, comme dit Clem, ouais, un festival c'est toute une orga, c'est tout un truc, faut prévenir les groupes, etc. C'est une grosse logistique. En revanche, accueillir des personnes qui viennent se réunir sur un sujet ou un autre, je pense que c'est beaucoup plus abordable et que ça se fait beaucoup plus simplement. Donc là, on a un peu le gros des troupes aussi qui sont un peu en vadrouille en France, un peu partout en Europe. Donc on va voir ça plus cadré à la rentrée. Je pense que là, on vit un peu un été où le canton il se consolide, il y a pas mal de gens de passage. Là, dernièrement, il y a la bibliothèque qui s'est montée, une cabane là, un poulailler, ça se fait petit à petit. On a plusieurs projets de chantier, ça sera bien un four, tu vois, la friperie, etc. Et puis l'idée, c'est peut-être quand même pour la rentrée d'avoir un campon solide où on puisse vraiment accueillir les personnes sereinement. Parce qu'il faut dire qu'on a aussi un problème d'eau ici. Il va falloir qu'on règle forcément, soit en trouvant la source ou...
Est-ce que l'eau n'est pas accessible directement sur le site, quoi.
Voilà.
On a passé les trois premiers mois. On a passé les trois premiers mois sans aucune source d'électricité. Là, depuis peu, on a deux petits panneaux solaires, un convertisseur et tout, qui nous permettent déjà de recharger les petites choses et d'avoir un petit peu d'électricité. Et depuis le début, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'accès à l'eau potable sur le site. C'est-à-dire que toute l'eau, on la remonte sur la butte par nos propres moyens ou par la récupération d'eau de pluie pour ce qui concerne le potager ou éventuellement la vaisselle. Donc on est très économe en eau, en énergie, puisqu'on monte tout à coup de bras.
Ouais, d'ailleurs on monte tout, que ce soit pour les constructions aussi, tout ce qui est palette, bois, etc. Tout est vraiment été monté comme ça.
À l'huile de coude.
Alors, voilà, parce que la butte, on peut pas monter au sommet de la butte. Parce que oui, c'est vrai que pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, c'est vrai qu'ils n'imaginent pas forcément le campement. Du coup, nous, on est venus ici au départ avec des yourtes et des tipis. On a deux yourtes, deux tipis. Après, on a commencé à faire, à fabriquer des cabanes. Là, on est dans le plus chaud de l'été. Il fait très chaud ici, mais on commence à réfléchir à comment passer un hiver agréable ici avec nos habitats légers et nomades.
Et donc ça va faire du boulot, ce que je voulais dire c'est que pour accéder à la butte on ne peut pas y arriver en camion non plus. Faut savoir qu'en bas, bon, le premier terrain dit girobroyer est destiné quand même aux potes en camion quoi, puisque ça passe pas pour les poids lourds mais pour tout ce qui est camion normal d'habitation et toutes les voitures ça passe. Voilà, y aurait peut-être un accès par l'autre côté mais c'est délicat parce que le terrain appartient à un paysan, donc ça ne le fait pas forcément.
Et puis c'est bien, moi je suis content en fait que les véhicules ne viennent pas jusqu'ici. Justement, ça donne aussi une certaine mesure au lieu et tout, ça empêche aussi un envahissement un peu trop des machines et de ces choses-là. Ça aussi nous remet en contact avec la réalité. Moi je trouve que c'est une bonne chose quoi, on porte toute l'eau qu'on boit et du coup on mesure beaucoup plus la valeur de l'eau que quand elle arrive juste par un tuyau et qu'on paye notre facture à la fin du mois. Ça nous responsabilise énormément aussi là-dessus. Mais oui, ce que je voulais dire c'est que tous les copains en camion sont bienvenus, qu'on a une zone d'accueil aussi pour les camions. Bon, tout ce qui est poids lourd et camion caisse avec une caisse un peu grosse peuvent pas venir, mais tous les autres sont les bienvenus à la place pour eux. Dans une zone qui est proche de la ville, mais qui est quand même dans la nature, au milieu des arbres et tout ça. Et voilà. Voilà qu'ici, il y a beaucoup de familles, beaucoup de tribus qui sont réunies et qu'on en attend encore beaucoup, quoi. Le lieu, en fait, le lieu pour être fait, depuis le début, on est une petite poignée, quoi. On est un noyau dur d'une dizaine de personnes, avec après beaucoup de visites, beaucoup de gens de passage, beaucoup d'étrangers, de gens qui viennent d'autres lieux en lutte ou d'autres lieux communautaires. Mais voilà, on a... Enfin, la zone est bienvenue et ce qui se fera, enfin, les gens, ça demande qu'à être investi par les gens, quoi. Voilà.
Voilà, c'est vraiment...
Bienvenue à tout le monde, quoi.
Ouais, c'est un endroit qui se veut vraiment accueillant, quelqu'un qui prend la décision, qui a peut-être envie un peu de laisser tomber peut-être sa vie dans ce moment, un peu pris par Babylone, etc., qui veut tenter l'expérience de changer, de passer le pas, ben c'est un endroit qui est destiné aussi à cela, qui est en train de se consolider en ce moment. Et puis justement, pour dire pour l'avenir peut-être, même pour les poids lourds, etc., il y a des endroits aussi à Décines qui sont visés, où il y a des personnes concernées. Je pense à quelqu'un qu'on a rencontré l'autre fois en faisant une enquête au marché, parce que du coup on va faire des enquêtes avec les gens et tout. On a rencontré ce propriétaire qui nous disait que justement, bon, il est concerné par une parcelle en bas. Donc c'est free, et puis aussi à terme, lui, il avait une grosse maison qui appartenait à son grand-père, donc qui est aussi accessible. On finira peut-être par ouvrir, il y aura une accessibilité pour les poids lourds, etc. Donc peut-être s'étendre aussi sur la ville à un moment donné, parce qu'on pose aussi tous les potes de squat à Lyon. En ce moment où c'est un peu chaud, ils sont en train d'expulser tout le monde. Donc c'est un endroit aussi qui se verra accueillir pas mal de monde, je pense. Et puis rebondir sur la rentrée aussi, j'ai une réunion avec les associations là, il y a quelques temps, et donc il y a plusieurs actions prévues, notamment une action tram qui a déjà eu lieu il y a quelques temps avec les associations de Carton Rouge, donc ils étaient plus d'une centaine de personnes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent les trams, les barrières, pour simuler le flux du tram les soirs de match, toutes les 6 minutes. Donc ça bloque la circulation, et on leur a proposé en même temps de faire une opération escargot. Ça veut dire de prendre les endroits névralgiques d'où justement sortiront les accès routiers et de simuler vraiment les soirs de match.
Donc ça sera pratique à ce moment-là.
Voilà, ouais. Mmh. Ça, c'est une action prévue. On a aussi une action à Gerland, où on souhaite donc aller à Gerland préparer un tract justement qui expliquerait cette histoire de cabinet d'architecte qui peut agrandir pour 200 millions. Voilà, et puis pourquoi pas faire un compteur aussi sur internet où les supporters de foot, etc., les gens concernés pourraient eux s'exprimer et dire vraiment s'ils veulent de ce stade ou pas. Oui. Voilà. Après, d'autres actions aussi, on aimerait pouvoir de manière hebdomadaire proposer une projection, proposer des sessions de permaculture aussi, qu'on puisse nous apprendre, et puis. Ça marche dans les deux sens, quoi.
Que des gens du village aussi en bas viennent,
oui, voilà, viennent
de Lyon.
Participer, voilà, avec plusieurs chantiers en vue. Et puis aussi, quand je disais consolider ici, nous aussi se sentir bien une fois que c'est solide, et puis pouvoir aussi développer tout notre tempérament artistique, je dirais. Parce qu'il y a pas mal de clowns chez nous, il y a pas mal de musiciens, et je crois qu'il y a aussi l'envie brûlante de... aussi de se faire plaisir à travers l'art de rue et, ouais, et de pouvoir communiquer aussi tout ça comme ça.
Ce serait un bon moyen de faire ancrer le lieu ici et trouver un système de solidarité avec les gens du coin.
Voilà,
aussi,
exactement. Ouais. Tribal war in a Babylon.
Dans une continuité, je veux pas faire peur par les mots, mais par une continuité de lutte contre le capitalisme et les projets inutiles, les détournements de fonds publics et ce genre de choses. Avant la création de ce campement, on a été déjà beaucoup à se déplacer sur différents lieux en lutte, que ce soit nos amis de Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que ce soit les amis qui luttent côté français, surtout côté italien, contre la ligne de TGV Lyon-Turin, quoi, en Val-de-Souza et ailleurs. Et voilà, nous on s'inscrit dans une lutte peut-être plus globale et plus généralisée que juste ce stade de football là.
Ouais, parce qu'à travers ce stade, c'est tous les ingrédients réunis vraiment, même si on va dans la lutte de l'occupation de l'espace public ou de la propriété, etc., même pour les gaz de schiste, etc., ouais, vraiment plus global, je crois, dans une manière de vivre au jour le jour, de chacun pouvoir faire plus des choix sensés. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire un choix sensé, c'est difficile de l'accompagner, quoi. Donc si on peut avoir de plus en plus d'endroits en France et en Europe, où justement là, il peut y avoir une convergence comme ça, des luttes et tout, ça peut vraiment être chouette. Je vois par exemple, il y a quelques semaines, il y avait le sommet de l'anarchisme international en Suisse. Et là-bas, on a rejoint des potes qui montaient justement un campement autogéré là-bas à Saint-Imier, au milieu justement de tout ce rassemblement. Et c'était très chouette aussi. On a rencontré des Belges, des Allemands, des Italiens. On a fait des ateliers vraiment chouettes où chacun apportait un peu son savoir de son pays, etc. Mmh. Et c'est très intéressant à ce niveau-là aussi.
Ouais, ça peut être à la fois un lieu d'expérimentation et de rencontre, quoi, au-delà de tous les aspects qui sont liés au stade, à la construction du stade et aux travaux. Quoi.
Bien sûr, c'est un lieu de vie. En fait, c'est un lieu de vie avant tout. Après, il y a les motivations qui nous ont amenés ici, mais outre les actions militantes et tout, ça va avant tout un lieu de vie parce que le temps qu'on passe ici, on passe à le vivre, à se construire nous-mêmes, à se construire dans le partage, à construire nos habitats, à apprendre la culture, à se transmettre des savoirs. Du coup, c'est un lieu de vie et on fait tout ce que les gens font chez eux, que ce soit ici ou là, quoi. Évidemment.
Ce qui est intéressant, c'est que des projets justement de destruction d'un territoire, ils portent en eux aussi la question de la récupération de ces territoires et de leur utilisation. C'est-à-dire que c'est des questions qui viennent ça soulève aussi ces questions forcément aussi, à savoir que eux ils vont décider de détruire toute une zone de nature et tout, et bien ça nous amène aussi à nous demander qu'est-ce qu'on peut en faire nous et comment on peut se les...
C'est la meilleure façon de peut-être la meilleure façon que d'éviter ce genre de projet, c'est peut-être justement de réapprendre à y vivre aussi, quoi. Développer une autosubsistance et une manière d'occuper ce territoire qui fait ce qu'il n'y a plus du tout de projet comme ça qui puisse se faire, quoi.
Bien sûr, ouais. Et bien souvent c'est autour de ce genre de projet quand il y a une menace qu'on arrive un peu à dépasser aussi les clivages, les différences, et à retrouver une vraie unité, quoi, parce qu'on ne vient pas tous des mêmes milieux, mais on a quand même une aspiration commune, de ne pas faire n'importe quoi avec la nature, d'arrêter avec la destruction, le développement à tout prix et le développement insensé. Du coup, voilà, on se rejoint autour de ce genre de choses.
Bah, c'est là où c'est magnifique d'un sens, parce qu'on va dire, il y a quelques années, enfin, de mon point de vue, je pense qu'il y avait plusieurs tribus comme ça qui étaient un peu de leur côté. Il y avait les anciens hippies dans leur tipi, les yourtes et tout, déjà qui occupaient l'espace, sans forcément militer. Bon, ils militaient déjà par leur vie, quoi. Après, bon, il y avait les travelers, beaucoup de jeunes, de moins jeunes, qui ont décidé de vivre en camion, de lâcher la part, de prendre cette direction. Toujours les gens des squats, les gens de l'art de rue, mais aussi les personnes en caravane ou en mobilhome. Et puis, d'un autre côté, il y avait aussi tout le côté militant, etc. Et ces familles ne se réunissaient pas forcément. Et c'est vrai qu'avec la LOPSI 2, ce qui s'est passé, c'est que les tribus sont descendues devant les préfectures. Et là, on s'est retrouvés tous ensemble. Et il y a eu cette alliance, quoi, qui fasse que ce genre d'équipe est née où vraiment tout le monde, moi j'aime bien trouver ce terme, on se disait avec les potes, nous sommes des technoï-nomades au circo vagababapun, qui on pourrait en rajouter, tu vois, se définir dans un truc qui est très moderne, qui est arrivé là, on va dire, par une grosse connerie d'un président qui a voulu faire passer des lois anticonstitutionnelles, tu vois, et qui s'est complètement planté, et qui, à travers ce truc, ça a fait tout le contraire, tu vois, ça fait qu'on s'est réunis, et qu'en plus, maintenant, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on est capable, maintenant, même, d'aller avec la population, puisqu'on vient rejoindre des personnes qui, elles-mêmes, se trouvent oppressées dans leur quotidien, et qui, là, vont plus nous écouter, ou plus, regarder notre vie comme elle est vraiment au-delà de ce qu'on a pu leur raconter, ou de ce qu'ils ont pu croire. Et je pense que là, il y a une vraie force, et il y a beaucoup d'espoir, quoi.
Puis ça fait, ici, c'est... On n'est pas à la ville, on n'est pas vraiment à la campagne non plus, et du coup tous les gens qui sont plutôt des luttes des campagnes peuvent venir ici s'y retrouver, et les gens qui sont à côté de la ville, qui sont vraiment pas loin, peuvent venir aussi et du coup rencontrer des différents types de gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, quoi.
On est dans cette zone frontière là qui est menacée par l'expansion de la ville et l'urbanisation. Et effectivement, Pierrot tout à l'heure lançait un appel aussi aux copains de la ville à dire que ici c'était peut-être un bon endroit de retour à la terre, à la nature, à une autre manière de vivre dans le partage et tout ça que ce qu'on a l'habitude de vivre en ville. Mais moi je voudrais aussi, vous venez de la radio du Diwa et tout, moi c'est un pays que j'aime beaucoup, je veux aussi lancer un appel à tous nos amis des campagnes environnantes, à tous nos amis voyageurs, nos amis des cabanes, des yourtes et tout ça, parce qu'ils portent en eux... Ils portent en eux et avec eux cette force de la nature et tout qui... Bon, ici on est sur une butte, l'avantage des buttes ou des montagnes c'est que comme elles présentent peu d'intérêts économiques, elles sont relativement protégées. Donc ici, on a la chance d'être sur cette butte, mais enfin voilà quoi. J'en profite pour, voilà, pour faire un gros bisou aux copains du Diwa et à faire un appel aux gens des... aux gens de la nature, de la montagne, de la campagne, à venir voir aussi ce qu'on fait ici, quoi, parce que beaucoup, en fait, beaucoup sont repoussés par le fait qu'on soit juste à côté de Lyon. C'est vrai, ici, on en parlait hier soir, et ben, on voit, c'est sûr qu'on voit bien, moins bien les étoiles que dans le Diwa, qu'en Ardèche ou dans le Vercors, mais voilà, on est quand même dans la nature, même si on est aux portes de Babylone, et on a besoin, on a beaucoup besoin, c'est génial qu'il y ait les copains des squats, les copains des camions et tout, mais on a besoin de cette force de la nature que portent aussi les gens qui savent vivre avec elle, qui savent vivre avec elle.
Ouais, parce que ce qui est fou d'un autre côté, on est dans un endroit où on pourrait espérer peut-être dans un monde plus équilibré, où nos dirigeants pourraient faire de la publicité en disant « Regardez, bon, je souhaite pas non plus que ça devienne un endroit touristique où tout le monde vient se balader le week-end, c'est pas la question. » Mais je veux dire, il y a plein de personnes ici qui sont même de Décines qui ne sont pas au courant qu'il y a cet endroit de nature. Beaucoup de Lyonnais non plus qui ne le connaissent pas du tout. Et c'est comme si on dirait vraiment que cet endroit est gardé à une seule fin de faire du business en fait, de l'immobilier à terme, que le béton grignote et tout, et alors qu'il pourrait être beaucoup plus connu, pourquoi pas. Et on veut créer des emplois avec un stade, mais pourquoi pas créer des emplois ici en prenant quelques hectares, en faisant du potager, du maraîchage, la permaculture, de l'énergie propre entre guillemets, quoi, etc. Il y a vraiment du potentiel, quoi.
Je voulais juste rajouter un truc rapport à ce que disait Clem tout à l'heure par rapport au fait que on représente une espèce d'autre manière d'occuper la nature qui fait que ça la protège un peu, enfin on essaye de la protéger de la conquête par la ville, quoi. Mais en même temps, si ça veut dire que chaque coin de nature qu'on veut protéger, on doit se mettre à y habiter et à l'occuper, parce que même si on n'a pas construit une ville ici, on perturbe quand même le cycle de la nature. Il y a des endroits à laisser déserts. Et moi, je voudrais juste poser la question, comment est-ce qu'on... C'est une question qui me vient comme ça et que je voudrais poser. Comment est-ce qu'on protège un endroit qu'on ne veut pas coloniser nous-mêmes? Et c'est une question qui, à mon avis, devrait tourner et être réfléchie un peu, parce que je ne l'ai pas souvent entendu poser.
Ben, cette question, moi, là, ce que ça m'évoque, cette question... Il y a des pays de nature, moi quand je me balade en Lozère, quand je me balade dans les Cévennes, quand je vais dans l'Aude, en Ariège, peut-être un peu moins dans l'Ardèche, mais aussi dans plein de pays de nature, il y a des endroits qui sont très peu colonisés, qui ont été très peu déforestés, où la nature reste très sauvage, où quand tu t'y balades la nuit, tu vois pas la lumière des habitations, quoi, où vraiment ça reste sauvage. Après, là, on est quand même dans la problématique de cette zone frontière, quoi, de l'expansion de la ville, donc le défendre sans l'occuper, dans cette logique d'expansion de la ville, c'est un moindre mal que de l'occuper dans un respect de la nature plutôt que de l'occuper en y mettant du béton.
Ouais, justement, la question c'est ça, c'est un moindre mal, mais comment est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver? J'ai pas de solution après à proposer, mais je voudrais qu'on... ce serait bien qu'on ait ça dans un coin de la tête et qu'un jour on ait une réponse, la solution pour que ça soit pour ne pas faire un moindre mal, mais faire pas de mal du tout.
Je pense que la réponse elle est dans l'action, la réponse elle est dans ce qu'on est en train de faire, parce qu'on le fait au jour le jour. Et aujourd'hui évidemment on n'a pas la solution, ça veut dire autant on défend un endroit pour qu'il soit pas bétonné et en même temps on l'occupe et nous sommes humains, donc forcément on a une influence dessus. Mais pour te dire, tu vois, je pense à la butte auto-fertile, qui est sûrement la butte qui donne le mieux sur tout le potager. Donc, qui est un bon exemple, je pense, de ce qu'on peut faire, tu vois, où on n'a pas d'influence vraiment sur la nature, et puis on est en train d'apprendre, tu vois. Donc, je pense que l'apprentissage, il se fait petit à petit. Et déjà, avoir conscience en se posant la question excellente que tu poses, je pense qu'on va avancer comme ça et qu'on va y arriver. Et puis, il faut pas oublier qu'en fait, on est en train d'arriver de là où on est parti il y a sûrement quelques millénaires, où je pense qu'on arrivait totalement à vivre en accord avec la nature et qu'en fait, on l'a oublié. Et que faut peut-être pas trop se mettre la pression non plus et garder espoir toujours.
L'homme a beau être particulièrement destructeur bien souvent dans ses actes. Je pense que c'est pas le seul rapport qu'il peut établir avec, avec son environnement et avec la nature. Il peut y avoir un rapport d'harmonie qui se développe. Alors c'est vrai que par rapport à quand on est arrivé, par exemple, on a entendu qu'il y avait moins d'oiseaux, quoi, que les oiseaux s'étaient un peu éloignés et tout. Après, voilà, je pense qu'on tous on attache une grande attention à pas rendre le lieu plus abîmé quand on y est arrivé. On essaie vraiment d'établir un rapport d'osmose, d'harmonie avec ce lieu. Alors forcément, les animaux un peu sauvages et tout sont éloignés un petit peu. Et puis le problème aussi, c'est qu'ici, c'est presque comme une réserve. Forcément, quoi, la nature, elle n'est pas infinie et tout. On est sur une butte. Dès qu'on y descend, il y a les... au loin, l'horizon, il est couvert d'immeubles, il est couvert des lumières de la ville. Donc ça reste quand même un petit îlot. Mais c'est pareil, cet endroit, il n'était pas désert, bien au contraire, avant notre arrivée. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'ados qui venaient ici et qu'on a rencontrés, qui viennent toujours pour échapper un peu aussi aux joues de la ville, de leurs parents et tout. Ils vont faire des feux, des fêtes entre eux, des genres de choses. Bon, aussi, un problème auquel on nous a fait part, c'est comme il y a peu de bois par ici, que c'est vraiment la zone la plus boisée, il y a les chasseurs aussi qui viennent traditionnellement chasser par ici, et là on est bientôt, enfin la chasse réouvre bientôt, on est fin août et donc bientôt on va être confronté à ce problème là des chasseurs, dont c'est le lieu de chasse habituel.
Que vous avez déjà rencontré?
Alors on a eu un rapport avec un chasseur qui chassait en hors période de chasse, donc qui était un chasseur assez remonté, et bon le copain qui était là, il y avait des chiens et tout sur le campement et tout. Du coup, le copain qui était là est allé le voir de manière un petit peu virulente, peut-être. Bon, mais finalement, il y a un dialogue qui s'est établi et tout ça. Mais c'est vrai que depuis, il n'y a pas eu d'autres chasseurs. Bon, après, on n'était pas en période de chasse. Après, voilà, on est ouvert et si les chasseurs viennent, on espère qu'un dialogue pourra s'établir avec eux. On n'a pas non plus l'intention de partir parce que la chasse va s'ouvrir, mais on espère pouvoir trouver une entente, quoi, trouver en tout cas un espace de dialogue, quoi. Voilà.
Et puis pour ce qui est de détruire le moins possible l'environnement, bon, c'est sûr, j'allais dire, dans tous les cas, même si on a une incidence qui est pas super, ça sera toujours mieux que des immeubles, etc. Et puis c'est toujours pareil, réitérer cet appel, dire que nous aussi on a besoin de connaissances encore qu'on n'a pas forcément pour justement pouvoir avoir le moins d'influence possible, récupérer les eaux usées, etc. Des choses comme ça où des fois, ouais, ça viendra, quoi. Quelqu'un qui vient, qui a le projet, bon bah tiens, on fait tel chantier, et ça permettra que, etc. Ça avance dans le bon sens.
C'est comme on est très peu, en fait, la force de ce lieu se trouve beaucoup dans ses devenirs possibles, quoi, dans ses potentialités, quoi, parce que tout est très embryonnaire, quoi. Alors évidemment, on pense à de la phytoépuration, à ce genre de choses. Mais après, voilà, on fait les choses au jour le jour, dans la simplicité. On n'utilise pas de produits chimiques. Les récup qu'on fait, on fait à peu près pas de récupération de supermarché et de produits industriels. On vit vraiment avec les fruits et les légumes du marché. Et ouais, on fait quand même très attention à la préservation de ce lieu, quoi. On coupe pas de bois vert, on fait ramasser le bois mort qui est dans les bois et on essaie vraiment de protéger ce lieu et pas de le détruire par notre empreinte. Moi, je pense pas que l'empreinte de l'homme soit forcément néfaste, quoi. À un moment, j'ai envie de re-rentrer dans un rapport d'unité avec la nature, quoi.
Et puis ouais, je trouve que de toute façon, depuis qu'on est gamin, on est quand même une population où on nous a appris à vivre d'une certaine manière. Je trouve qu'en définitive, on s'en sort quand même pas mal, quoi, avec les moyens du bord et tout.
Vous avez autre chose à ajouter, je sais pas. Vous voulez parler d'un truc en particulier, je sais
pas. J'aurais peut-être insisté vraiment sur ce côté qui n'est pas développé encore ici, vraiment, ce côté festif. Art de rue, etc.
Oui, du coup, ça peut être aussi, s'il y a des gens dans le Dibois, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont issus des milieux artistiques ou quoi, s'ils veulent venir ici.
Voilà, ouais. On se retrouve souvent à faire le bœuf autour du feu, là, sur le forum. Et puis, donc aussi en visuel, parce que j'étais pas là au début. Donc comme disait Clem, on a deux yourtes, deux tipis, ouais. Une cuisine en palette, une bibliothèque en palette, cabane dans les bois,
dans les arbres.
Cabane dans les arbres, gros potager en terrasse aussi, avec plusieurs petits potagers sur la butte là, avec justement une butte auto-fertile, toilette sèche.
Et puis on a le centre du village aussi, on a un agora ou un forum ou je sais pas comment on appelle ça quoi, le centre, le cœur du village qui est encore de construction mais qui est. Ah, c'est pas facile de le décrire quand on l'a pas devant les yeux mais qui est
magnifique. Ouais. Et on a un beau poulailler aussi avec deux poules dedans.
Ouais. Donc si on veut vous donner des poules, c'est possible aussi quoi.
Oh, peut-être que deux déjà.
Ah ouais, c'est deux, pas ça mal, va. Ouais.
Ah non, si on veut nous donner des poules, je dis que c'est avec grand plaisir quoi.
Oui, avec grand plaisir.
Après on peut en discuter avec nous, mais non les poules c'est chouette hein. Il y en a déjà certains qui pensaient à prendre des troupeaux de chèvres. Alors moi j'avais dit si on peut commencer par des poules, c'est pas mal. Voilà, là on a deux poules, si on avait un petit peu plus de poules, ce serait pas un problème, c'est pas un appel, mais si on nous offre des poules, on les refusera pas, c'est sûr.
Je sais pas si on est encore prêt pour les ânes, mais... Ouais. Et les ânes, à terme, ça sera pas mal.
Après, ouais. Pareil, s'il y a des... Pour le jardin, je sais pas, maintenant c'est un peu tard, mais dans l'optique où ça se trouve, l'année prochaine, on pourrait faire mettre encore là, quoi, c'est bien d'espérer. S'il y a des gens qui ont des variétés, des vieilles variétés de semences, des trucs comme ça peut être très très sympa aussi.
C'est pareil, on a un très beau frigo, le bunker, qui a été creusé dans la terre, voilà, qui pourra peut-être être agrandi. Mais c'est pareil, nous on avait l'idée, ça sera peut-être pas cette année, mais on voulait faire par exemple une des grandes plantations de pommes de terre pour aussi aider les potes en ville, en squat et tout, pourquoi pas en faisant des marchés prix libres avec les légumes, etc. Donc pourquoi pas un appel aussi. Si vous avez quelques centaines de kilos de pommes de terre, pourquoi pas.
Et pour venir ici, du coup, Dessine, on est au l'est, c'est ça, nord-est.
À l'est de Villeurbanne.
Et plein est de Lyon. Et donc pour venir sur le périphérique de Lyon, il y a une sortie Dessine mes yeux. Et on prend cette sortie. Et... Comment ça se passe après Thierry?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que surtout, quand on vient de n'importe quel côté, en fait, donc on tombe sur le périph, et il y a cette fameuse rocade est. Donc le mieux, c'est de prendre la rocade est, jusqu'à avoir la sortie des signes grand large. Une fois qu'on est sorti, on prend toujours des signes centre. Et ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que c'est des signes église Saint-Pierre.
D'accord.
Une fois qu'on est à l'église, on y est. Puisque tous les commerçants en bas savent où on est, etc.
D'accord.
Et simplement, si on arrive en pleine nuit, eh bien, une fois qu'on est à l'église Saint-Pierre, on l'allonge. Et en somme, c'est toujours tout droit. Puisqu'en fait, en descendant cette rue Antoine Lumière, il y a un petit coude de quelques mètres où on tombe sur le chemin du Biaisin. Et là, toujours tout droit, on y arrive. Si on arrive en train, là, c'est très simple. En fait, il y a le tram 3 qui part de la gare Pardieu, qui arrive directement à Dessine-Centre. Et de Dessine-Centre, toujours pareil, église Saint-Pierre. Okay. Pour le métro, métro A, terminus Vaux-de-la-Soie,
bus dans la soie.
16.
Okay.
Et l'arrêt, église.
C'est super précis ça. Ok. Bon bah super, merci à vous quoi.
Un numéro de téléphone aussi.
Ouais, il y a un numéro de téléphone, ouais. Vas-y donne.
Donc c'est le 06 40 22 23. Et le 72. Ça je répète, 06 40 22 23 72.
Et vous venez donc d'écouter une interview réalisée à Dessine, donc à l'est de Lyon, où il y a un stade plutôt de foot qui est prévu d'être construit. Et donc vous pourrez réécouter cette interview en entière parce qu'elle dure une heure, donc peut-être si vous l'avez pris en cours de route, elle va être disponible sur rdiwa.fr. On m'entend pas. Mais si on m'entend. Tu peux regarder. Alors, est-ce qu'on m'entend? Je crois bien qu'on m'entend quand même. Du coup, c'est ça. Ce stade est prévu d'être construit, donc, enfin, devrait être construit si jamais les méchants entrepreneurs gagnent, à côté de Lyon, à Décines, donc à l'est de Lyon, à 10 km. Et donc, je disais que cette interview est réécoutable sur rdiwa.fr. Ça sera l'émission Feu de tout bois numéro 33, quelque chose comme ça. En tout cas, la dernière qui sera mise en ligne. Voilà. On peut dire. Thank you.
Vous êtes toujours sur Feu de tout bois, une émission qui finit de façon aquatique. On rappelle le calendrier, samedi, dimanche prochain, Parole de galère à Marseille, sur la friche de la bande de mer. Le 8 septembre, rassemblement à 18h devant le centre de rétention du Canet, boulevard des Peintures, métro Bougainville, brisons l'isolement, solidarité avec les sans-papiers. Et juste avant mon intervention un peu sauvage, dans cette atmosphère paisible, nous étions à Hawaï. Nous étions à Hawaï avec la baleine à bosse, le mégaptère. Et là, nous sommes dans des régions un peu plus froides du monde, puisque nous écoutons, et ce jusqu'à 9h, la baleine franche qui vit dans les zones arctiques. Elle avait des choses à nous dire, et si tout le monde peut s'exprimer, peut-être qu'on les entendra plus très longtemps. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'il y a des appels qui sont lancés régulièrement pour dire que ces grands mammifères marins sont en train de disparaître. Les derniers individus chantent encore, mais pour combien de temps? Alors, profitons-en.
Ciao.
Feu de tout bois, ça continue la semaine prochaine. Même heure, même endroit. C'est toujours possible de venir nous rendre visite en direct de 19h30 à 21h au studio.
Tout est dit.